Il est 7h03 minutes. C'est le secret le moins bien gardé à Ottawa, Bernard.
Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est écrit dans le ciel.
Voilà, Justin Trudeau qui, dimanche, va aller prendre une petite marche, puis il va traverser à Rideau Hall, parce qu'il vit pas loin de là, parce qu'il peut pas vivre au 24 Sussex Drive. Hein. Tu savais ça, que la maison tombe littéralement en décrépitude en ce moment.
Là où il a passé son enfance.
Là où il a passé son enfance. Il va traverser, il va aller voir la nouvelle gouverneure générale, puis il va dire... Je sais pas, on n'est plus capable de fonctionner dans ce Parlement-là, alors on déclenche les élections.
Oui, est-ce que la gouverneure générale peut refuser? C'est la question. En théorie,
théoriquement, oui.
Voilà.
Mais en pratique, on pourrait dire, oh, je pense qu'elle a un petit problème.
Elle a un petit problème, elle vient d'être nommée. Effectivement, mais techniquement, Louis, dans la tradition britannique, le premier ministre doit convaincre la gouverneure générale de la pertinence, donc de démontrer qu'il n'a plus la confiance de la Chambre. Et la gouverneure, elle a deux questions à se poser. La première, c'est le temps écoulé depuis la dernière élection. Là, on parle de 21 mois. C'est dans l'ordre des choses. Un gouvernement minoritaire dure 18 à 24 mois. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a un gouvernement potentiel en attente dans l'antichambre? Et souviens-toi, le portrait surréaliste en 2008, lorsque Jack Layton, Gilles Duceppe et Stéphane Dion avaient signé une entente pour former un gouvernement de coalition là, pour sortir Stephen Harper, qui a dû se rendre à Rideau Hall à l'époque pour plaider sa cause auprès de Michael Jean.
Ouais. Et il semble-t-il que ça avait donné lieu parce que ça s'excitait, là, les avocats qui accompagnent, qui donnent des conseils justement à la gouverneure générale. Ça avait été toute une histoire parce qu'elle ne s'attendait pas à placer comme ça sur le feu, n'est-ce pas, de cette façon aussi importante. Là.
Donc, on s'entend que c'est peu probable que O'Toole, Blanchette et Singh puissent faire une coalition. Mais il reste quand même, la seule possibilité, c'est de convaincre parce qu'on est minoritaire. C'est vrai au Parlement, mais c'est vrai dans la trentaine de comités du Parlement, Louis. Et je te raconte rapidement une histoire. En Grande-Bretagne, il y a 2 ans, à peu près jour pour jour, Boris Johnson avait demandé à la reine de proroger le Parlement, donc de le suspendre parce qu'il voulait présenter sa stratégie Brexit. Et la Cour suprême, les oppositions ont demandé à la Cour suprême britannique est-ce que la reine était justifiée de le faire, et la Cour a dit non. Elle a même qualifié d'illicite la décision de la reine parce que la Cour a dit que la justification n'était pas raisonnable. Donc, c'est un précédent dans le parlementarisme britannique. Bon, est-ce que la gouverneure générale va se rendre, va en tenir compte, comme on disait? Ouais. C'est peu probable.
C'est effectivement. Mais pendant ce temps, les partis d'opposition, eux autres, ils disent ben, il n'est pas dysfonctionnel, ce Parlement-là. Il fonctionne très bien. Les projets de loi ont été adoptés, des projets de loi importants. Même le budget, le discours du budget est passé.
Oui, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle déclencher la vague, Louis, la quatrième vague, je pense qu'il y a là, un élément qui fait parler et pour lequel les oppositions critiquent le gouvernement. Et est-ce que ça va avoir de l'incidence? Tu sais, les sondeurs nationaux qui ont suivi de près en Colombie-Britannique la campagne qui s'est déroulée en octobre 2020, ils ont constaté que oui, au début, on ne parle que de ça, de l'irresponsabilité, donc les coûts, parce que là, ça va coûter, on apprend ce matin, 612 millions la campagne électorale, mais qu'à la fin de la campagne, il n'y a aucune conséquence. Dans les sondages qu'il faisait jour après jour, mais Justin Trudeau va devoir donner des réponses claires, c'est-à-dire s'il veut mettre ça derrière lui rapidement, puis que la campagne va être courte, mais de façon générale, les sondages le confirment, les gens n'aiment pas aller voter, surtout en période de pandémie, mais les résultats nous montrent que ça a été bénéfique au Nouveau-Brunswick, ça a été bénéfique, c'est-à-dire en Colombie-Britannique, les gouvernements sont devenus majoritaires, et il y a un argument, souviens-toi Louis, le 25 mai, les communes ont adopté quasi unanimement une motion qui dit que de tenir une élection en pleine pandémie serait irresponsable. C'est sûr que les oppositions vont faire du chemin avec ça, d'autant plus que le Dr Tam, la directrice de la santé publique, a confirmé pas plus tard qu'hier qu'on était effectivement dans une quatrième vague. Donc, en tout cas, je pense que ça va jouer serré.
Bon, à quoi on peut s'attendre avec les sondages, d'ailleurs?
Bon, les sondages placent les libéraux en avance. Ça bouge pas beaucoup depuis un an. Les deux derniers là d'Abacus et Angus Reid de cette semaine, on donne 5 et 9 points d'avance aux libéraux. Les agrégateurs de données là qu'on connaît, c'est-à-dire Québec 125, Canada 338, Poll Tracker de CBC, disent la même chose, c'est-à-dire que le Parti libéral est bien en avance. Mais on a déjà connu des revirements en 2015. Le NPD avait perdu 10 points et les libéraux en avaient gagné 10. En 2019, ça avait à peu près pas bougé les aiguilles sur les sondages. Mm-hmm. Donc, à la ligne de départ, on trouve un Justin Trudeau qui mène, qui est premier ministre du Canada, qui est le premier pays sur la planète dans la course vaccinale, donc qui est l'antidote de la quatrième vague. Évidemment, c'est un avantage. Autour, le Parti conservateur, on le peut ou pas vu en raison de la pandémie. C'est sûr qu'il va plaider la relance économique, mais tu sais, avec sa base anti-vaccin, climato-sceptique, les démons moraux qui ont rattrapé Andrew Scheer aux dernières élections, il n'est pas à l'abri de ça pendant la campagne électorale. Les néo-démocrates, on l'a vu hier, Jamit Singh a dévoilé sa plateforme électorale, donc des dépenses encore sociales, faisons payer les riches, on connaît le discours. Le Bloc, beaucoup mieux positionné qu'en 2019. Blanchet, il part avec... Évidemment, il y a eu des déchirements dans les nominations, mais il est très bien positionné. Ouais. Et la déception, c'est les Verts. Les Verts qui auraient dû profiter du rapport du GIEC sur l'urgence climatique et ils sont empêtrés dans une crise de leadership assez difficile. Mais il y a un élément, il y a un inconnu en terminant, Louis, là-dessus, le facteur X. Tu sais, ce fameux facteur qui, au Québec, tous les analystes se font prendre parce que le Québec nous a habitués à des revirements spectaculaires dans les trois dernières élections fédérales. La vague orange en 2011, parce qu'il était passé de 1 à 59 sièges, Jack Layton. En 2015, les libéraux sont passés de 7 à 40 sièges au Québec et la résurrection du Bloc québécois en 2019, voilà, qui était passé de 10 à 32. Très difficile à prévoir. On peut pas mettre ça de côté en disant non, ça bougera pas beaucoup. Il peut y avoir des surprises et le Québec nous a montré qu'il était capable de surprises au cours des dernières élections. Là.
Voilà, exactement. Alors, on va suivre ça avec évidemment beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Bernard Sivigny, d'avoir été avec nous durant toute cette saison estivale. Cette belle équipe qui a donc travaillé d'arrache-pied pour vous faire une émission qu'on a cru la meilleure qu'on pouvait faire, en tout cas.
Oui, ça a été un réel plaisir, Louis. Ouais. Un réel plaisir de partager ton micro pendant l'été. Puis merci à toi pour tout, ton ouverture, ta façon de mener le jeu. C'est très facilitant. Merci beaucoup.
Merci, Bernard, et à bientôt.
À bientôt. Salut.
Et dans le tunnel, Louis-Hippolyte Lafontaine, qu'est-ce qui se passe?